Merci d'écouter France Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, combien de migrants disparus par une mer sans fond avec les autorités italiennes au bout du fil. Retour sur un drame en Méditerranée jugé à Rome aujourd'hui. Deux officiers pour leur cruelle passivité. Les conversations entre le navire et les gardes-côtes ont été enregistrées. Elles donnent la chair de poule. 5 décembre, J-2, la CFDT cheminots entre dans la grève. Elle appelle officiellement ses adhérents à un mouvement reconductible. Parole de conducteur de train à suivre. Et puis l'opposition en partie dans la rue avec les grévistes. Le premier secrétaire du Parti Socialiste sera l'invité du grand entretien.
Oui, Olivier Faure, dans une vingtaine de minutes au micro d'Inter. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile d'Inter pour dialoguer avec lui.
Au sommaire également, fromage, maquillage et sac à main. Washington veut surtaxer des produits français pour se venger de la taxe GAFA. Emmanuel Macron pour en parler avec Donald Trump au sommet de l'OTAN aujourd'hui. L'antisionisme, nouvelle forme de l'antisémitisme, débat et polémique en perspective à l'Assemblée. Des questions après les inondations dans le Sud-Est, quid des projets lancés qui auraient permis de limiter les dégâts par endroits. Et puis la cigale et la fourmi sur un air d'opérette, les fables de La Fontaine par Rofenbach à la fin de ce journal.
France Inter.
Ce fut l'un des premiers naufrages massifs de migrants en Méditerranée, le début du naufrage de l'Europe en la matière. Le 11 octobre 2013, 500 Syriens et Palestiniens fuient la guerre. Leur bateau coule entre Malte et Lampedusa dans l'indifférence des autorités maritimes. Le bilan sera de 266 morts, dont 60 enfants. Deux officiers italiens auront à répondre de ce drame aujourd'hui à Rome, poursuivis pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Ce naufrage, Bruce de Galzin, est documenté du début à la fin.
Il y avait un téléphone satellite à bord de l'embarcation. C'est un médecin syrien qui appelle les gardes-côtes italiens à 12h39, une conversation que publiera l'hebdomadaire L'Espresso.
Votre position, 300 personnes, 300, 300. Il y a des enfants ?
Environ 100 enfants, 100 femmes et peut-être 100 hommes.
Vous êtes parti de Libye ?
Oui, s'il vous plaît, dépêchez-vous, l'eau est en train de rentrer. S'il vous plaît, dépêchez-vous.
Les gardes-côtes préviennent alors Malte sans donner de détails sur l'état du bateau. Une demi-heure plus tard, le médecin syrien rappelle l'Italie qui lui donne le numéro des autorités maltaises. Mais encore une heure plus tard, le médecin rappelle une troisième fois les gardes-côtes italiens.
J'ai appelé Malte, ils me disent que nous sommes bien plus près de Lampedusa que de Malte. Je leur ai donné la position, vous êtes plus près pour nous. Nous sommes en train de mourir, s'il vous plaît. Je n'ai plus assez de crédit pour le téléphone, il va couper.
Vous êtes en train de parler avec l'Italie, mais vous devez appeler Malte, monsieur.
Un patrouilleur italien n'était qu'à 1h30 de l'embarcation qui fera naufrage au bout de 5h, de longues heures pendant lesquelles Malte et l'Italie n'ont pas su s'entendre. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Près de 18 000 personnes sont mortes en traversant la Méditerranée depuis 2014, selon l'Organisation internationale pour les migrations.
Il est 8h04, Florence. En France, ça y est, la CFDT cheminot met sa menace à exécution et appelle à son tour à une grève reconductible à partir de jeudi.
Après avoir laissé planer le doute, le syndicat estime que le gouvernement n'a pas répondu à ses inquiétudes sur le régime de retraite des cheminots de la SNCF. Il représente presque un conducteur sur 5 qui ne prendront pas les commandes des trains dans 2 jours, comme ceux qu'a rencontré Claire Flochel à la gare du Nord à Paris.
La colère et l'injustice sont les sentiments qui prédominent chez ces cheminots. Xavier, 36 ans, est conducteur de train depuis 16 ans. Comme il l'explique, il n'a pas signé pour ça.
Quand on rentre pour être conducteur de train, on a en tête tous les inconvénients de ce métier. C'est-à-dire travailler un jour férié sur deux, travailler un week-end sur deux. Et on avait aussi en tête de partir un petit peu plus tôt à la retraite avec des retraites plutôt décentes. Mais là, petit à petit, on nous enlève tous ces pseudo-avantages. Et par contre, les inconvénients s'accumulent.
Nous ne sommes pas des nantis, voilà ce que nous dit également Daniel, 42 ans, cheminot depuis 20 ans.
Les gens disent qu'on a des privilèges, mais des privilèges, on n'en a plus, on n'a que les désagréments, en fait. Du coup, je suis déterminé, c'est pour mes enfants. Je ne veux pas partir à la fin et même pas pouvoir vivre. Que ce soit mes enfants qui prennent soin de moi, enfin, en gros.
Même discours et même détermination chez Renault. Il conduit des trains depuis 21 ans.
C'est une réforme que je trouve profondément injuste, qui vise juste à nous rendre pauvres tous les uns et les autres. J'ai une profonde colère contre ces gens qui décident pour nous alors que eux ne sont absolument pas dans le besoin et qui veulent absolument nous contraindre à des vies incertaines, laborieuses. Moi, ça m'est insupportable.
Renaud, Daniel et Xavier se battent pour eux, pour leurs enfants, contre des dirigeants qu'ils trouvent déconnectés. Ils sont unanimes, ils iront jusqu'au bout. La grève pourrait donc être très longue, selon eux.
Et puis, deux des principaux syndicats de policiers, Alliance et UNSA Police, appellent à des actions reconductibles à partir de jeudi et aussi pour maintenir leur régime de retraite bonifié. Hier, une centaine de CRS ont brièvement déposé casques et matraques devant leur caserne du Val-de-Marne, alors qu'un troisième syndicat, Unité SGP Police, appelle tous les agents de nuit à ne sortir que sur appel au 17 pour protester contre leurs conditions de travail et de rémunération. Autre source de mécontentement et de blocage, la suppression de l'avantage fiscal pour le gazole non routier. 500 stations-service sont en rupture totale de carburant dans l'Ouest à cause du blocage de 5 dépôts pétroliers par des professionnels du bâtiment. Hier, ils ont obtenu quelques garanties à Bercy, mais pas de nouveau délai pour l'application de la réforme à partir du 1er juillet prochain. Ils se réuniront aujourd'hui pour décider de la suite à donner à leur mouvement, mais des gendarmes sont d'ores et déjà en train de déloger les bloqueurs du dépôt de Verne-sur-Sèche en Ille-et-Vilaine.
Il est 8h06, une femme est toujours portée disparue dans le Var après les inondations de dimanche.
Le bilan est de 6 morts. Il aurait pu être beaucoup plus lourd après l'effondrement de tonnes de roches sur le village des Mets dans les Alpes de Haute-Provence hier après-midi. Tombé sur des maisons sans faire de victimes, c'est la pluie qui a fait bouger le terrain. Ailleurs, on éponge et on nettoie, parfois pour la seconde fois en une semaine. Et l'on se demande pourquoi rien n'est fait pour éviter que les cours d'eau ne débordent. Les habitants du quartier du port de Mandelieu-la-Napoule ne comprennent pas ce qu'est devenu le projet de bassin de rétention lancé il y a 8 ans. Sur place, Jérôme Jadot pour France Inter.
Les inondations à répétition, la faute à une urbanisation galopante, reprochent certains sinistrés, le tout bitume et tout béton qui favorise les accumulations d'eau dans la ville. Christian habite le quartier du port, trois fois inondé depuis 2015.
Au lieu de refaire un village tout beau, tout neuf pour les touristes, ils font pas les travaux pour ceux qui sont là à l'année et on a toujours les pieds mouillés en hiver, quoi. S'ils veulent garder les gens du village, il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce que le bac de rétention n'a toujours pas été fait.
Le bassin de rétention, c'est un projet lancé en 2011, un réservoir en quelque sorte pour recueillir le trop-plein d'eau. Mais s'il n'est pas encore construit, selon le maire LR Sébastien Leroy, c'est à cause du législateur.
La loi française oblige une quantité monstrueuse de données, de travaux préalables pour convaincre différents services, qui fait que malgré la volonté des élus locaux, des agents de l'État sur le terrain, eh ben rien n'avance parce que c'est la loi et qu'on perd des décennies à suivre des règles qui sont datées du siècle dernier, très clairement.
Selon le maire, c'est également à cause de la paperasse et des procédures qu'est retardée la mise en place de protections étanches autour des copropriétés. Il espère pouvoir les réaliser l'été prochain.
Reportage de Jérôme Jadot. Taxer les gros SUV allemands et les voitures sportives. Bercy voulait alourdir les malus sur ces véhicules qui rejettent trop de CO2. Bien selon les Échos, Bruno Le Maire a décidé de faire passer le plafond de ce malus de 12 500 à 20 000 euros. Cela concernera des voitures vendues souvent plus de 100 000 euros. L'argent récolté alimentera des fonds créés pour accompagner la transformation écologique du secteur auto en France. Œil pour œil, dent pour dent, taxe pour taxe, les États-Unis repartent à l'offensive contre la France et son impôt sur les GAFA. La menace a été brandie dans la nuit à Washington. Elle concerne toute une série de produits français pour 2,5 milliards de dollars qui pourraient être surtaxés à 100%, Grégory Phillips.
Comme à chaque fois, la liste établie par le représentant américain au commerce ressemble à un inventaire à la Prévert dans le collimateur de l'administration Trump. Cette fois, 63 produits fabriqués en France. Ça va du beurre au Roquefort, en passant par les vins pétillants, les yaourts, le maquillage, les sacs à main, les savons ou encore la porcelaine. Pour Robert Lighthizer, le projet français de taxer à 3% de leur chiffre d'affaires réalisé en France, les Google, Apple, Facebook et autres Amazon vise de manière absolument discriminatoire les entreprises américaines du numérique et il convient donc de riposter en taxant certains produits made in France au moment de leur arrivée sur le sol américain, certains jusqu'à 100%. Pour l'heure, on en est encore qu'aux menaces, mais une application de ces tarifs à partir de la mi-janvier compliquerait grandement la tâche des entreprises françaises concernées qui exportaient jusqu'ici leurs produits vers les États-Unis. De leur côté, les géants américains du numérique applaudissent cette décision de la Maison-Blanche qui, selon eux, vient défendre les intérêts de ces multinationales de l'Internet. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et voilà donc un sujet de discorde de plus entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Ils se verront tout à l'heure à Londres, au sommet de l'OTAN. L'Alliance Atlantique fête ses 70 ans dans un climat de défiance. L'OTAN en état de mort cérébrale, avait déploré le président français. C'est vous qui êtes en état de mort cérébrale, lui avait répondu le Turc Erdogan. Les deux hommes ont prévu une franche discussion à Londres.
Il est 8h10. L'antisionisme est-il un antisémitisme qui ne dit pas son nom?
Vaste question sur laquelle se pencheront les députés aujourd'hui à l'Assemblée sous la forme d'une proposition de résolution portée par un député de la majorité. Choqué par les insultes essuyées par Alain Finkielkraut au cours d'une manifestation il y a quelques mois, ce député Sylvain Maillard veut élargir la définition de l'antisémitisme, mais son projet ne fait pas l'unanimité. Dans Le Monde, 127 intellectuels juifs demandent aux députés de ne pas soutenir ce texte dont Laurence Perron nous raconte la genèse.
Il y a le contexte. En 2018, les actes antisémites ont augmenté de 74% en France. En février dernier, 4 jours après l'agression de l'intellectuel Alain Finkielkraut, injurié pour sionisme, le président de la République s'engage personnellement au dîner du CRIF.
L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme.
En raison de divisions au sein de la majorité sur la question, ça n'est finalement pas une proposition de loi, mais une résolution qui va être portée aux voix. Sylvain Maillard, député de La République En Marche, la défend.
Pour permettre à nos enseignants, nos juges, nos policiers de reconnaître ce qu'est l'antisémitisme.
Ce qui pose problème aux détracteurs du texte, c'est le fait que l'on reprenne une définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, contestée parce qu'en englobant l'antisionisme, elle aboutirait, selon eux, à confondre racisme et critique légitime d'un État et de sa politique. Faux pour Sylvain Maillard.
On peut critiquer l'intégralité des politiques des gouvernements israéliens, y compris les frontières. La seule chose que nous disons, c'est qu'on ne peut pas critiquer l'existence même d'Israël pour attaquer à travers ça nos compatriotes juifs. C'est ça que nous disons dans cette résolution.
Le député assure ne pas avoir de doute sur le vote de sa résolution. Il reconnaît toutefois qu'il lui a fallu faire un gros travail de conviction.
Cette proposition de résolution de Sylvain Maillard, qui n'a aucun caractère contraignant d'un point de vue juridique, a été signé, sachez-le, par seulement un tiers des députés de la majorité à l'Assemblée. Puisque nous ne sommes plus à un anglicisme près, ni à une initiative en provenance des États-Unis, oubliez le Black Friday et passons donc au Giving Tuesday, aujourd'hui, mardi, journée consacrée aux dons et à la philanthropie. Une fois qu'on a dit ça, il manque une idée pour inciter à donner. La voilà, sous la forme d'une plateforme internet de dons cadeaux pour encourager le mécénat d'entreprises. Méfiance des associations et explications de Claire Chaudière.
Après les chèques cadeaux et les cartes cadeaux, voici venu un nouveau concept, celui du don cadeau. Je t'offre un don que tu verseras à l'association de ton choix. Don cadeau entre particuliers, mais aussi et surtout à destination des entreprises, explique Thérèse Lemarchand de Coméon, premier site français à se lancer sur ce créneau.
L'entreprise, elle peut offrir un don et le salarié va choisir à quelle association il souhaite le donner. Des associations qu'on a sélectionnées pour elle. On veut vraiment créer une nouvelle génération de donateurs. Il faut donner à la philanthropie les mêmes outils que ce qui existe déjà largement dans le e-commerce.
Initiative qui sera saluée tout à l'heure par le gouvernement, alors qu'une partie du monde associatif dénonce justement la réforme en cours du mécénat. Les grosses entreprises verraient au-dessus de 2 millions d'euros de dons leur déduction fiscale passer de 60 à 40%. Une régression pour Boris Valbaum, porte-parole d'un collectif de 70 associations mobilisées, dont la Croix-Rouge française.
Ça représente pour nous 400 millions d'euros de dons qui sont à risque. L'État s'apprête, le jour du Giving Tuesday, à baisser l'aide aux dons. C'est une bonne chose de faire de la communication, mais le mieux, c'est surtout d'encourager à donner avec la fiscalité. C'est ça qui est efficace. Et donc, le jour du Giving Tuesday, ça me paraît un peu paradoxal.
Acteur associatif qui rappelle qu'en 15 ans, les subventions publiques aux associations ont baissé de 10 milliards d'euros.
Et rappelons que la baisse de la déduction d'impôts votée dans le budget 2020 ne concerne pas les dons aux associations qui fournissent des repas, des logements ou des soins en personne, aux personnes en difficulté. Le Ballon d'Or 6 fois pour Lionel Messi, l'attaquant du Barça récompensé à Paris hier soir après une année à 49 buts, presque la routine pour l'Argentin. Chez les femmes, c'est la charismatique américaine Megan Rapinoe, double championne du monde, qui décroche le trophée. Enfin, si je vous parle de la Belle Hélène, de la vie parisienne ou de Fantasio, vous allez me dire...
Offenbach,
et vous avez raison, Nicolas, mais connaissez-vous sa version des Fables de La Fontaine, enregistrée par la mezzo-soprano Karine D avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen en Normandie. L'album vient de sortir, une tournée a commencé pour nous faire entendre 6 fables mises en musique, dont la plus célèbre, Stéphane Capron, La cigale et la fourmi.
La cigale et la Jacques Offenbach a composé ses Fables de La Fontaine pour piano et voix au début de sa carrière, bien avant les grands succès de ses opéras bouffe. C'est la première fois qu'on les entend dans une version symphonique orchestrée par le chef Jean-Pierre Hack pour la mezzo-soprano Karine Dehé.
On connaît justement Offenbach dans une énergie plutôt festive, plutôt drôle, comique. Et là, on se rend compte qu'avec les Fables de La Fontaine, justement, c'est pas très drôle. Il y a toujours cette morale. Et même au niveau de la musique, il y a des choses très étonnantes avec le son de l'orchestre. On retrouve déjà plein de sonorités des contes d'Hoffmann.
Être corbeau sur un arbre de perché, tenez ton son bec en fromage.
Offenbach suit pas à pas l'intrigue de Jean de La Fontaine. La musique colle au texte, il donne de l'éclat à la voix. Devant le succès remporté à l'époque par ses fables, Offenbach en développera une, le financier et le savetier, qui deviendra un opéra.
Voilà pour cette partie de l'œuvre méconnue d'Offenbach, dont on commémore le 200e anniversaire de la naissance.
Mais,
sachez-le.
Oui.
Et Karine Dehé avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen se produisent, si vous êtes dans le coin, dans l'heure cette semaine.
Merci Florence Paracuelos.